France Culture.
Esprit de justice qui, ce soir, va se demander si le droit est à la hauteur des défis que lui pose l'environnement. Et on va partir d'une notion, l'Anthropocène. L'Anthropocène désigne une nouvelle époque géologique créée par l'activité des hommes qui sont devenus la principale force de changement sur Terre, de la Terre, perturbant et surpassant les forces géophysiques. La prise en considération de l'environnement ébranle les représentations profondes, les plus souvent inélaborées d'ailleurs, sur lesquelles reposait le droit. Celui-ci organisait les relations entre les hommes dans le périmètre d'un territoire donné et sous l'horizon de la durée d'une vie humaine. Mais voici que les répercussions de toutes les activités humaines sur notre environnement provoquent un désajustement de tous les fondamentaux du droit. Comment les juristes peuvent-ils appréhender ces grandeurs qui les dépassent? Tous y travaillent, et depuis longtemps, depuis des années. Le législateur, tout d'abord, qui a produit un tissu d'une rare densité normative. La doctrine aussi, c'est-à-dire les professeurs, qui repensent les catégories juridiques en s'ouvrant à celles des autres pays, mais en s'ouvrant aussi au rapport à la terre des peuples autochtones. Et puis enfin, les juges qui occupent dans ce secteur du droit de l'environnement une place centrale tout à fait nouvelle. Les différentes décisions prises par des instances très différentes à travers le monde dessinent un vaste espace de discussion qui construit les problèmes posés par l'Anthropocène, qui les met en forme et qui, pourrait-on dire, libère l'intelligence collective. Tous ces acteurs sont peut-être en train de jeter les bases d'un droit commun à la hauteur de cet objet commun à tous, qu'est la nature qui nous environne. Une sorte de common law mondial. Ce sont toutes ces questions que Esprit de Justice voudrait approfondir ce soir en compagnie de Mathilde Autereau-Boutonnet, qui est professeure de droit à Aix-Marseille Université. Elle y dirige le master droit de la transition environnementale et elle est spécialiste du droit de l'environnement. Et ses recherches donnent lieu à un certain nombre de publications, dont un essai, un livre qui s'intitule « Le code civil, un code pour l'environnement », c'est chez Dalloz, en 2021, dans la collection « L'essence du droit ». Et pour en parler avec elle, un autre professeur, mais de droit public, ce qui est très important pour les juristes, cette distinction droit privé et droit public, Laurent Fombostier, professeur de droit public à l'université de Paris-Saclay, spécialiste aussi en droit de l'environnement, qu'il qualifie, il s'en expliquera dans l'émission, « droit mésologique ». Et il co-dirige le master droit de l'environnement, mais on lui doit un certain nombre d'ouvrages techniques, d'articles, mais aussi un livre que je retiens parce qu'il portait sur John Locke, le droit avant l'État, c'est toujours dans la collection Le bien commun.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, on va parler de l'Anthropocène. L'Anthropocène, je dois dire que ce mot m'intimide un peu. Comment vous le définiriez, Mathilde Autereau-Boutonnet?
Peut-être que le mieux, c'est de le resituer. Le mot, il est créé en 2000 et il faut se resituer. Le prix Nobel de chimie, qui est Joseph Crutzen à l'époque, prix Nobel de chimie, est un colloque et il veut expliquer le changement d'époque. Pour lui, l'Holocène des 12 000 dernières années est passé et maintenant, nous sommes dans l'Anthropocène, hein, caractérisé par la puissance de l'homme. Et plus précisément par le fait que sa puissance est telle que ses activités vont modifier durablement les écosystèmes de la planète, au point, effectivement, de poser la question ensuite du changement de vie de l'homme aussi.
Et alors, si c'est modifié par l'homme, la responsabilité en revient aux hommes.
Oui, la responsabilité en revient aux hommes. Et ce qu'il y a, à mon avis, de très intéressant dans la notion, c'est que ce n'est pas uniquement une notion scientifique, bien au-delà. C'est une notion très globale qui permet de penser les causes et conséquences dans l'ensemble de l'Anthropocène et de réunir plusieurs disciplines, dont, là vous parlez de responsabilité, on peut tout autant parler de responsabilité morale que de responsabilité juridique.
Bien sûr, mais elle est contestée aussi par des scientifiques et notamment par les géologues, non ?
Oui, c'est une notion contestée et qui reste encore très contestée. Les géologues refusent de la reconnaître parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas encore suffisamment de preuves au regard de leurs critères.
Oui, ils sont dans le temps très très long, les géologues.
Ils sont dans le temps très long, ils font des distinctions entre les époques, les ères, les périodes, et pour eux, finalement, les preuves ne sont pas encore suffisantes pour attester de l'anthropocène.
Alors, les preuves, mais il y a aussi l'imputabilité, on pourrait dire, de ce changement. Pourquoi anthropocène, on pourrait dire aussi la capitalocène, parce que dans le fond, c'est le capitalisme, surtout, qui a développé, c'est la révolution industrielle, c'est l'occidentalocène aussi, on pourrait dire, Laurent Faubussier.
Oui, ce qui est un peu gênant parfois pour le juriste, autant que pour l'éthicien ou le moraliste avec ce mot, c'est qu'il essentialise un peu l'humanité et que d'une certaine manière, effectivement, il y a tout un tas, comme Martine à la plage ou à la montagne, il y a des déclinaisons des aires nouvelles, si je puis dire, et capitalocène, on sait bien, plantationocène, on le sait évidemment, thanatocène aussi marche assez bien dans les
c'est
temps
plutôt
actuels.
Macabre, oui.
C'est plutôt macabre, mais ça ressemble assez bien à ce que nous sommes en train de faire. Mais ce « nous », justement, est problématique. Pourquoi ? Parce qu'en essentialisant l'humanité en tant qu'elle serait à l'origine du problème, on oublie qu'en réalité, il y a en arrière-plan, et c'est pour ça que capitalocène était très intéressant, Antoine Garapon, on oublie que c'est surtout derrière l'humanité un certain modèle de développement qui a pour origine une partie seulement de l'humanité, dont d'ailleurs l'autre partie est assez généralement victime. Mmh. Et donc, sous cet angle, je crois qu'on a une première interpellation autour de cette essentialisation à risque. Et du point de vue philosophique, ça pose une question.
Et cette globalisation autour de l'idée d'humanité ou de l'anthropos, de l'homme, alors que vous insistez beaucoup d'ailleurs dans vos écrits, il y a ceux qui produisent et qui tirent profit de ces activités et puis ceux les affectés.
Absolument, ça c'est Robin Kersler, de très beaux propos sur ces questions-là. Mais peut-être juste pour ajouter un mot par rapport à nous qui sommes juristes ici, ce qui est très intéressant, en revanche, quand on dézoome ou quand on défocalise un petit peu, quand on prend du recul, on s'aperçoit que ce terme est quand même très riche. Pourquoi ? Parce qu'il indique non seulement ce qu'il faudrait que nous fassions aujourd'hui, et nous sommes réunis pour en parler, mais aussi sans doute ce que le droit n'a pas pris en charge. Depuis, selon les époques que l'on retient pour identifier le début de l'anthropocène, ce que le droit n'aurait pas fait ou pas pris en charge, on est au cœur de l'émission, me semble-t-il, déjà là, et qu'il faut maintenant revisiter, faut faire des inventaires et repenser les choses. Parce que d'une certaine manière, le droit, dans sa complétude, s'il autorise des choses, c'est qu'il ne les interdit pas.
Oui, c'est ça. Mais voilà. Moi, je me souviens de mes études de droit, Mathilde Autoreau-Boutonnet, et je me souviens de grands débats qu'il y avait sur l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire et sur cette fiction de dire le contrat de travail, le contrat d'adhésion, le contrat de mariage, tout est contrat. Et le contrat, eh bien, c'est de définir par un accord de deux volontés le périmètre d'une action et de prévoir d'anticiper son déroulement dans le temps.
Oui, et le droit fonctionne beaucoup par fiction.
C'est ça.
Et l'anthropocène permet également, c'est une notion très pédagogique finalement, cette anthropocène. Donc je rejoins effectivement ce que dit Laurent sur ce point, ça permet de penser le droit de manière très globale, c'est-à-dire de s'intéresser non pas uniquement à la règle qui existe aujourd'hui, mais de revenir aux fondamentaux et de se demander pourquoi elle a existé. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué ? Et quand on parle de l'anthropocène aujourd'hui, on a tendance parfois à focaliser sur ses résultats. C'est-à-dire qu'on va être sur les résultats scientifiques qui vont nous dire voilà où on en est des émissions de gaz à effet de serre, voilà où on en est de l'érosion de la biodiversité. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce phénomène, il n'est pas seulement scientifique. Il s'explique aussi par une causalité juridique. Le fait que le droit a été autorisé, bien évidemment, qu'on soit d'accord ou pas ensuite sur le phénomène, lui, ça c'est autre chose, mais le fait que le droit participe à ce modèle de société avec les conséquences de l'anthropocène. L'anthropocène permet de penser très largement et de mobiliser toutes les disciplines et le droit en tant que choix de décision. Il y a de la politique juridique dans l'anthropocène.
Il y a de la politique juridique, mais cet élargissement, est-ce que les juristes ne risquent pas de se perdre dedans et de passer la main aux scientifiques ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce que certains appellent en anglais, c'est, et vous reprenez ce mot à votre nom, Laurent Faubustier, l'épistocratie. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas sous le diktat de scientifiques pour lesquels, et les juristes ne peuvent pas rentrer dans ce débat scientifique?
Une des grandes difficultés, c'est qu'en droit de l'environnement, nous le savons, peut-être un peu plus que dans d'autres disciplines juridiques, on a besoin des scientifiques. Et on en a besoin à tous les étagements, à tous les moments de la production du droit, et je dirais même à tous les niveaux, à toutes les échelles, à l'occasion d'un procès pendant lequel il faut savoir quelle est la cause d'une pollution d'un cours d'eau, mais aussi évidemment en amont de politiques climatiques évidemment massives et très considérables internationales, on a besoin d'un rassemblement de discours scientifiques, de sciences dures, mais évidemment l'un des grands enjeux c'est aussi le statut des sciences humaines et sociales là-dedans. La grande difficulté, je crois, c'est qu'il ne faut pas confondre, ce que j'ai bien vu quand j'ai étudié un peu les travaux du GIEC, il ne faut surtout pas confondre l'apport, l'aide à la décision qu'apportent les scientifiques et ce moment politico-juridique irréductible qui est celui vraiment de la démocratie aussi et de la décision. Et là, c'est la loi de Hume, hein, vous savez qu'on connaissait au XVIIIe siècle, il y a l'être et le devoir-être, c'est ce que Kelsen reprendra dans sa manière, is et ought, c'est le constat scientifique d'un côté, mais la prescription possède sa part irréductible de mystère qui renvoie d'ailleurs au champ politique et juridique. Et
est-ce qu'il est possible, alors là on est déjà dans à plein pied dans notre sujet, est-ce qu'il est possible, je dis par exemple nous Français, nous Européens, on a fait la charte de l'environnement, on était très fiers, c'était une réalisation du président Chirac. En Europe, il y a déjà 27 législations. Il y a le reste du monde, Mathilde Autoreau, Boutonnet. Donc, comment est-ce qu'on peut s'accorder? Comment est-ce que les juristes peuvent penser la réorganisation du droit quand il y a tellement de sources différentes et tellement d'intérêts opposés?
Ah non, mais ça, bien sûr que c'est notre plus grand défi aujourd'hui en droit, puisque le droit de l'environnement, c'est quand même un droit qui appelle à penser global. Quand on parle de changement climatique, on parle de risques globaux. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, donc émises aux États-Unis, ont des conséquences chez nous. Donc, il faut nécessairement, pour certains risques en tout cas, penser de manière globale. Alors, pour penser ce global, avant tout, on a pensé du côté de cette matière que l'on appelle le droit international. Donc on mise sur le fait que les États vont s'entendre et dans leur propre législation vont faire descendre des fondamentaux sur lesquels on est un peu près d'accord, mais de moins en moins d'accord.
De moins en moins d'accord, oui.
Parce que plus le phénomène de l'anthropocène devient urgent et visible, moins on est d'accord, puisqu'évidemment, ça demande à remettre en cause beaucoup de choses bien fixées en droit.
Moins on est d'accord, et pourtant j'ai été surpris de voir dans une revue juridique extrêmement respectable un article qui est signé par des juristes, des chercheurs du monde entier. On peut dire quasiment du monde entier. Hein, oui. C'est l'anthropocène, un outil conceptuel pour interpeller le code civil. Et là, il y a toute la Terre qui signe.
Et oui, et vous savez quoi? C'est un article signé par des scientifiques et non pas des juristes.
Ce sont des scientifiques, oui,
je crois.
Tout à fait.
Et ça, c'est important parce que ça veut donc dire qu'encore une fois, les scientifiques s'accordent davantage peut-être, alors pas tous, hein, sur cette notion, et cet article est très intéressant parce qu'il explique à quel point cette notion d'anthropocène peut être une notion très pédagogique, qui est que finalement, même si on part des sciences, ça peut permettre aussi de lire les autres matières. L'économie, par exemple, la décroissance, la notion de décroissance, la science politique, la géographie aussi sur l'utilisation des sols, et on peut ramener ensuite au droit pour voir comment ce concept peut bousculer certaines notions.
Il peut bousculer certaines notions, il peut donner une boussole. Et il y a un terme qui revient souvent quand on parle d'anthropocène, et j'aimerais qu'on le développe un peu parce que il est très puissant, c'est l'idée d'habitabilité de la Terre. Garder une Terre habitable, Laurent Faubustier.
Oui, moi ce que j'aime beaucoup dans ce terme et qui entre en résonance aussi avec les travaux de Rockström et compagnie en 2009 autour des limites planétaires, ce que je trouve très bien, c'est que le terme d'habitabilité, d'abord habité, je pense au très beau livre de Vinciane Després, Habiter en oiseau, qui est un magnifique ouvrage.
Expliquer en deux mots, Habiter en oiseau, parce que c'est quand même assez curieux, c'est-à-dire qu'un homme s'imagine comme s'il était un oiseau.
Oui, non mais c'est parce que ce qui est très beau dans l'ouvrage, c'est qu'il y a d'abord une forme de modestie, il y a un certain refus d'une manière de concevoir la propriété, Et donc, il y a aussi quelque chose qui me fait penser d'une autre manière aux travaux de Sarah Van Huxem, qu'on connaît bien autour de la déambulation, par exemple. Habiter, d'abord, il y a une chose dont il faut qu'on prenne conscience. Nous le savons, depuis Sophocle au moins, nous habitons tous à bord d'un vaisseau. Vous savez sans doute qu'au moment du rapport Meadows et de la déclaration de Stockholm en 72, qui est vraiment la première grande déclaration, Mathilde évoquait l'importance du droit international avec vous tout à l'heure, la grande déclaration qui pose, de façon déclaratoire, il est vrai, les grands principes fondateurs du droit de l'environnement. La même année, on a le rapport Meadows sur la limite de la croissance qui est connu, et un rapport qui est moins connu de Barbara Ward et de René Dubos, qui a été en tout cas coordonné par eux, qui s'appelle « Nous n'avons qu'une terre ». Et le début du rapport commence par la notion de vaisseau spatial, de vaisseau climatisé ou de vaisseau habitable, et à bord duquel les ressources ou l'oxygène viendraient à manquer.
C'est un peu un arche de Noé
Exactement, mais l'arche de Noé n'avait pas de gouvernail, souvenez-vous. Et la grande difficulté, c'est qu'il faut maintenant qu'on invente ensemble un nouveau gouvernail. Mais ce vaisseau, je crois que par rapport à l'habitabilité, il y a cette idée que nous sommes reliés, qu'on le veuille ou non. Personne n'a décidé de venir ici, et voilà que nous devons, ensemble, faire quelque chose sans there is no alternative.
Oui, c'est
mais
ça.
Je déplace ici la formule de Margaret Thatcher,
évidemment. Oui.
Nous sommes obligés ensemble de faire quelque chose et le droit a toute sa place pour faire ça.
C'est évidemment. Ça. On est obligé de faire ensemble quelque chose et de penser des limites qui sont quasiment incommensurables. Limite de l'environnement, de l'atmosphère, les limites des ressources. Limite aussi, c'est qu'on était habitué à penser territoire, on l'a déjà dit. On est tous ensemble sur la Terre. Et avec cette introduction, Mathilde Autoreau-Boutonnet, des générations à venir.
Oui. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a deux manières de réagir. Et ces générations sont une manière assez nouvelle. C'est-à-dire que soit vous regardez les conséquences de l'anthropocène et on continue à se dire, et c'est normal, que le droit, généralement, c'est un droit en réaction. Donc, on va produire, reproduire et encore reproduire de la norme. Une norme, comme le disait très bien Laurent, de plus en plus technique, avec des objectifs. De plus en plus dense. Et puis on va chercher toutes les solutions possibles. Peut-être qu'on va inciter, peut-être qu'on va favoriser pour faire respecter. Et puis finalement, on se rend compte que ça marche plus ou moins bien. Ou une autre manière, qui est de dire qu'est-ce qu'on a fait jusque-là pendant deux siècles? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'avoue, ça fait beaucoup plus peur, parce que la solution, c'est de s'interroger non pas uniquement sur les sciences elles-mêmes, mais sur la manière dont on a produit le droit. Quels sont les concepts qui nous gouvernent? Comment on le rend intelligible, visible, et comment on le manie, ce droit?
Oui.
Et les générations, penser les nouvelles générations, ça fait partie des concepts juridiques qui peuvent nous permettre de penser autrement le droit.
C'est à nous qui inclut beaucoup d'agents juridiques, Laurent Faubessier. C'est-à-dire que le nous, ce qui pollue l'État, pollue la guerre, pollue beaucoup. La guerre en Ukraine pollue énormément. Ça, on le sait. Mais c'est surtout les entreprises, c'est les gens qui fabriquent, c'est les acteurs privés qu'on gouverne différemment que la chaîne de command and control, on donne des ordres et on fait appliquer, c'est plus subtil que ça.
Oui, la grande difficulté, Mathilde évoquait un horizon de 200 ans en arrière, si on reprend l'ère libérale de la Déclaration des droits de l'homme, par exemple. Il est vrai, et le Code civil enchaîne de manière, à mon avis, assez magistrale en la matière, il est vrai que je crois qu'il faut qu'on se mette à l'esprit, ou dans l'esprit, le fait qu'il y a des entités juridiques, avant de les élargir, qui sont un problème aujourd'hui, du fait de la manière dont on les a définies, délimitées ou conçues. Et j'en vois trois qui sont essentielles. L'État moderne, l'État moderne vers lequel on se tourne encore aujourd'hui pour faire de la législation, il faut quand même jamais oublier, quand on dézoome un petit peu, qu'il est historiquement à l'origine de très grands troubles, de systèmes de domination, de colonisation. L'écologie ne fonctionne pas très très bien avec cette violence de l'État, qui a le monopole d'une contrainte légitime. Les entreprises qui, au XIXe siècle, se sont vues reconnaître, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, une personnalité morale qui pose évidemment, qui crée un découplage entre les actions et la responsabilité, c'est un formidable problème, en fait,
oui,
pour
c'est
nous
ça.
Aujourd'hui.
Et ça a été vécu, d'ailleurs, au début du 19e, comme un problème. On crée des personnes à côté de l'État et à côté des personnes physiques.
Et j'ajouterai la difficulté, qui est que, finalement, ces entreprises, autant dire les choses, elles ont pris le pouvoir. Je parle des grandes transnationales. Et finalement, l'État a pris, au contraire, du recul. Donc, elles ont, quelque part, toute la place dans la problématique dont on est en train de parler. Et l'idée, maintenant, c'est de leur faire peser des nouveaux devoirs qui seraient finalement la conséquence de leur propre pouvoir et de rechercher un équilibre. Mais comment voulez-vous rechercher cet équilibre quand pendant deux siècles, on leur a dit au contraire qu'elles étaient là pour nous faire du bien?
Et puis, lorsque, pour prendre la célèbre parole de Friedman, où la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire des profits.
Oui.
Voilà. Et donc, Laurent Fabius, comment est-ce qu'on va faire, comment on va sortir de cette difficulté? Alors, vous disiez l'État, l'entreprise et les troisièmes.
L'individu qui est, au sens où Guattari l'entend, le terminal. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans ce système de production, distribution, consommation. Il est le stade terminal, mais d'un autre côté, tout est fait, évidemment, pour le magnifier. Je pense au très beau livre de Christopher Lasch sur la culture du narcissisme.
Oui, vous voyez,
et l'entreprise elle-même, nous, Mathilde l'a très bien dit à l'instant, considère qu'en réalité, on est là pour vous rendre service. On va vous mettre dans la meilleure des situations possibles. On va s'occuper de vous.
C'est ça.
Comme l'État avait ses services publics précédemment.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
This bitter earth, well, what the fruit it bears, what good is love? That no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Lord, this bitter earth, yes, can be so cold. Today you're young, too soon you're old. But while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call. And this bitter earth so bitter after all.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les défis que lance l'Anthropocène au droit en compagnie de deux professeurs de droit, Mathilde Autoreau-Boutonnet, professeur à Aix, et Laurent Faubestier, qui est également professeur à Paris-Saclay, qui a choisi de nous faire entendre The Bitter Earth de Dina Washington. Pourquoi ce choix, Laurent Faubestier?
D'abord, je le dédie à tous nos étudiants qui, quand on n'a pas trop le moral... nous redonne vraiment, je trouve vraiment, mettre du baume au cœur. Mais Dina Washington, j'aime beaucoup, elle a influencé un certain nombre d'autres chanteuses américaines. Et puis cette chanson dont le titre est un peu sombre, hein, ce monde amer ou cette terre amère, mais dedans il y a quelques passages qui sont très beaux autour d'éclats de roses qui sont possibles et de quelqu'un que vous interpellez, en tout cas vous appelez, et quelqu'un vous répond. Donc quand on regarde de près les paroles de la chanson, il y a d'assez belles choses qui donnent de l'espoir dans un monde évidemment qui peut sembler un peu amer aujourd'hui.
Alors, qui donne de l'espoir, et vous avez cette expression dans un de vos écrits, Laurent Faubestier, vous dites « Le droit de l'environnement, c'est un ensemble de rustines ». Oui, on voit très bien. Alors l'image est très, parlante. On voit un pneu et on voit beaucoup de rustines plus ou moins efficaces.
Oui, tout à fait. Il y a un biorégionaliste américain connu qui va même plus loin dans l'image et qui dit que le droit de l'environnement, c'est un hôpital dans lequel il y aurait qu'un service d'urgence et qui de surcroît fonctionnerait mal. Donc voilà, on pourrait poursuivre. Donc, non, ce qui est vrai, c'est ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, c'est que quand le droit de l'environnement est né dans cette matrice de droit public dans les années 70-80 avec les grands principes que vous connaissez sans doute, Antoine Garapon, principe de précaution, principe de prévention, principe pollueur-payeur ou de responsabilité. Mais quand il est né, dans ce sillage, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'alternative ou le néolibéralisme, il ne faut jamais perdre de vue qu'au moment même où les fondations étaient posées, quelque chose, aux États-Unis, en Angleterre et dans beaucoup d'endroits du monde, a bougé, qui fait qu'il y a une sorte de contradiction majeure entre les piliers fondateurs de cette matière dans les années 70-80 et un néolibéralisme qui a donné lieu à une multiplication d'agitations matérielles d'extraction à la surface de la Terre inimaginable. Oui. Cette accélération pose au droit de l'environnement tel qu'il a fonctionné des questions tout à fait
abyssales. Et qui continue sous plusieurs formes.
Absolument, avec les pieds au plancher.
Oui, alors Mathilde Boutonnet.
C'est effectivement un droit d'opposition, on va dire, hein, rustine, mais aussi vraiment d'opposition, parce qu'on se rend compte dès le début du XIXe siècle qu'il va quand même y avoir certaines difficultés. Alors, on ne parle pas encore d'environnement, on parle davantage de nuisances, de voisinage, dues à la pollution industrielle. Il ne faut pas oublier que quelques années après, on passe de 1804 du Code civil, un code très individualiste, très libéral, avec l'héritage bien évidemment de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à une législation qui est le décret impérial de Napoléon de 1810, qui est le décret qu'on appelle le décret sur les manufactures et les conséquences de l'insalubrité des manufactures, qui a pour but de déjà organiser l'activité industrielle. Ça, oui. Enfin, la limiter au départ, c'est surtout limiter ses conséquences pour que les ouvriers puissent continuer à travailler.
C'est une finalité humaine et on est toujours dans un monde...
C'est la santé environnementale.
Anthropocentré, voilà, qu'on s'intéresse...
Sûr. Le but, c'est quand même de faire tourner la machine.
Il y a une notion qui n'était pas du tout dans le Code civil, à ma connaissance, dans l'exploitation, et ça interroge la civiliste que vous êtes, Mathilde Autoreau-Boutonnet, c'est la vulnérabilité. Notre monde est vulnérable. Les choses elles-mêmes ne sont pas que des biens qu'on peut échanger, commercer, exploiter. Elles sont vulnérables.
Oui. Le code civil, alors c'est vraiment un code des choses. Hein. Le code civil, c'est un code fondamentalement de la propriété. Le rêve du code civil, c'est l'individu, la personne. Et le but ultime, c'est qu'un jour, il devienne propriétaire. Il y a deux choses dans le code civil. C'est un code des choses, les choses qui s'offrent à nous. Il va falloir les répartir entre les hommes. Oui. Une idée de justice quand même. Soit la chose est appropriée. Et dans ce cas-là, c'est parfait. Je peux en jouir. Et je peux l'user. Mais cet environnement, je l'use. Je l'use jusqu'au bout. Je l'exploite. Soit elle n'est pas appropriée. On connaît cette expression chez les juristes. C'est une chose commune. Mais comme elle est commune, je peux aussi largement l'user et largement la dégrader. L'environnement n'y est pas. Il n'y a aucune vulnérabilité. Alors, je nuancerai finalement. Il y a déjà une idée de vulnérabilité à travers l'incapacité des personnes. La femme, quelque part,
les hommes,
on va s'en occuper, elle est vulnérable.
Les hommes, pas les choses.
Voilà, pas les choses. La chose n'est pas vulnérable, bien au contraire, je dirais que l'environnement est vu de manière immuable. Autant l'homme
peut mourir. C'est ce qui reste, c'est le cadre qui ne change pas.
L'environnement lui-même, on nous dit, dans le discours de Portalis, finalement, il n'a pas encore la chose elle-même, le fond, la terre, ne nous a pas encore tout révélé. Elle va continuer à nous révéler tout ce qu'il y a d'exploitable. C'est très positif, c'est Descartes.
Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un droit d'appropriation, vous le dites bien, c'est un droit de prédation, et qui ne tient pas compte d'une notion qui me semble, Laurent Faubostier, qui me semble s'imposer de plus en plus, et qu'on ne sait pas tellement comment la prendre d'ailleurs, c'est cette idée d'empreinte. Nos actions ont une empreinte, c'est-à-dire des conséquences très longues, une empreinte. Et je suis frappé de voir que ce terme d'empreinte, il s'applique aussi bien au numérique, les signes qu'on laisse, qu'à l'écologie, qu'à l'économie. Et tout laisse des empreintes et il faut qu'on raisonne le droit sur les deux plans, le plan de l'action et le plan des empreintes que cette action va laisser.
Oui, c'est très beau. Et la dimension anthropologique de l'empreinte ne peut échapper à personne. Quand on imagine les empreintes que Garcia analysait dans la grotte Chauvet, elles n'ont pas tout à fait le même impact, si je puis dire, au-delà de leur dimension émotionnelle et esthétique, le même impact que l'empreinte écologique. Ce qui m'intéresse dans le terme d'empreinte, d'abord, c'est peut-être le jeu de mots, c'est qu'est-ce qu'on ne rend pas quand on emprunte à travers une empreinte.
Oui.
Qu'est-ce qu'on emprunte sans le
qu'est-ce
rendre. Et là, je trouve que dans une perspective un peu maussienne, il y aurait des choses sans doute très intéressantes. Qu'est-ce qu'on redonne ou ne redonne pas. Mais l'empreinte me plaît beaucoup. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on analyse l'empreinte écologique, elle permet de se sortir un petit peu d'un discours très réducteur, qui est un discours souvent climato-énergétique, autour de l'empreinte carbone.
Oui, oui.
Et l'unité carbone, l'empreinte carbone. On en parle en permanence.
Oui, oui, oui,
mais l'empreinte carbone, elle est très réductrice. Et je trouve qu'elle vient, pour le coup, d'une partie des sciences qui oublient. On compense beaucoup plus facilement une empreinte carbone qu'une empreinte écologique globale. Parce que l'empreinte écologique, elle est extrêmement inclusive. Et c'est pas pour rien que parce qu'elle parle du vivant, elle est beaucoup plus difficile à mesurer, à compenser. Donc, c'est la raison pour laquelle, si je puis dire, le dénominateur commun qu'on a retenu pour réduire l'empreinte, c'est la notion de carbone. Quand les problèmes climatiques ne sont qu'une petite partie, avec des effets redoutables.
De tous les problèmes de l'environnement.
Absolument. C'est pour ça que la notion d'empreinte écologique plus globale, moi, je la trouve personnellement intéressante. Elle est sans doute insuffisante, mais elle est très, très séduisante dans une première intention.
Mathilde Autereau-Boutonnet, alors, c'est comment est-ce qu'un bien peut être deux choses à la fois ? Ce qu'il est, l'empreinte qu'il laisse. Comment est-ce qu'il peut être ma propriété, où je peux tout exercer sur cette chose, et en même temps quelque chose de communautaire, quelque chose qui excède ma domination sur ce bien.
C'est vrai que les juristes se posent beaucoup cette question. Le bien, c'est cette chose appropriée, donc a priori, puisqu'on est débarrassé depuis le Code civil de la division des domaines moyenâgeuses, on peut en faire ce qu'on veut en toute exclusivité. Sauf que, quand on regarde le Code civil de 1804, dès le début, il est quand même prévu que je ne peux pas en jouir comme j'en veux de ce bien, je dois respecter les lois et les règlements. Et finalement, ces lois et ces règlements, surtout dans le domaine environnemental, dans le domaine de l'urbanisme, ils sont tellement venus restreindre mon droit de propriété que l'on peut quand même se demander si cette exclusivité existe toujours, ou en tout cas, si le bien doit se définir exactement de la même manière. Les restrictions sont telles que même le droit de propriété mérite d'être repensé parfois.
Alors, c'est dire la profondeur. Si on touche au droit de propriété, alors, le Code civil tremble.
Et le Conseil constitutionnel aussi.
Aussi. Alors, on a parlé du Conseil constitutionnel. Il y a le juge. Laurent Faubussier. Il y a le juge. Les juges, je devrais dire. Les juges. Et ce qui est extraordinaire dans ce domaine, vous allez nous en donner des exemples, c'est que c'est des juges qui parlent entre eux, qui se lisent. Il y a des observatoires. Et donc, là, il y a quelque chose de très nouveau, c'est que on a l'impression que les législateurs font ce qu'ils peuvent, les constituants aussi, mais que les juges, eux, ils ont pris le problème à bras-le-corps, Laurent Faubussier.
Alors, c'est pas à vous, Antoine Garapon,
oui,
avec vos multiples fonctions, que j'apprendrai l'importance des juges, évidemment.
Oui, tout à fait. Qu'il est bon de rappeler en ce moment.
Oui. Absolument. Oui, dans un contexte très, très particulier, évidemment. Non, en un mot, si vous voulez, ce qui peut, et je voudrais pas paraître chagrin, évidemment, ici, mais en tant qu'environnementaliste, la première remarque que je ferai, notamment en direction des personnes qui s'enthousiasment devant telle ou telle décision des juges, ma première remarque, elle est simple. Le droit de l'environnement est prioritairement, de manière vraiment fondamentale, un droit préventif. Donc je suis obligé de considérer que partout où le juge intervient beaucoup, avant de me réjouir, faut que je m'interroge. Parce que ça signifie, d'une certaine manière, même en démocratie, que quelque chose n'a pas eu lieu qui fait qu'on a recours au juge.
Alors,
donc je suis quand même obligé de le dire, mais ça n'enlève rien du tout à la grande importance de l'intervention.
C'est que quelque chose a eu lieu, et ça veut dire aussi, et ça je trouve ça vraiment très intéressant, c'est cette fonction du juge qui dit aux grandes entreprises, et ça c'est quand même très nouveau, vous avez pris des engagements, moi je suis l'huissier ou le greffier, c'est-à-dire je vais garantir l'effectivité des engagements que vous avez pris, Mathilde.
Oui.
Au juge,
ou à l'État, d'ailleurs.
Ou à l'État,
parce que
oui,
pour l'instant, c'est vrai que cette manière de...
Quand
on pense effectivement à la protection de l'environnement, il est clair que le juge détient une place très particulière, parce que le juge... Parce qu'il existe une multitude de juges pour finalement aussi bien oui. dans l'ordre international que dans l'ordre de l'Union européenne, dans l'ordre national. Donc, on peut tenter notre chance, j'allais dire, oui, dans ça. Différents ordres. Donc ça, c'est important de penser également cette
donc,
universalité.
Pour élaborer des stratégies, notamment.
Pour élaborer des stratégies. On parle véritablement de stratégie judiciaire, du côté des associations de protection de l'environnement. Et ce qu'il faut également bien penser, c'est ça aussi le fait, c'est que les associations de protection de l'environnement ont un rôle particulier à jouer dans cette,
elle le joue,
dans cette matière, et elles le jouent, parce que c'est souvent elles qui vont vers le juge pour faire respecter ce droit de l'environnement, et je suis tout à fait d'accord avec Laurent qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est bien pour ça qu'elles agissent, bien évidemment, et on voit de plus en plus effectivement de juges qui sanctionnent l'État au regard des objectifs qu'il sait lui-même fixer, en matière de biodiversité, mais également très récemment en matière d'algues vertes et de pollution aux nitrates. Donc on voit bien la sanction. Du côté des entreprises, on est quand même beaucoup en attente de savoir ce qu'il serait susceptible
alors,
de
va,
faire.
On va revenir sur l'entreprise, mais un mot avec vous, Laurent Faubussier, sur l'État. Moi, ça me surprend beaucoup de voir des arrêts, notamment du Conseil d'État. Hein. C'est comme des arrêts célèbres, Grande Synthe, ou les algues vertes, vous allez nous expliquer, dans lequel le juge dit à l'État, voilà ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas à la hauteur, il faut en faire plus.
Oui, oui. Alors, et j'ajouterais même que pas mal de ces décisions sont assorties aujourd'hui d'injonctions, d'astreintes. Oui,
astreintes pour nos auditeurs, ça veut dire qu'on paye.
Oui, c'est-à-dire qu'on... Alors, après, la grande difficulté, c'est que l'astreinte sort de la poche de l'État pour rentrer dans la poche de l'État, peut-être, d'une certaine manière. Donc, il y aurait des questions, en tout cas, à se poser. Mais bien sûr, non, ce que je veux dire par là, c'est que les juges prennent à bras-le-corps, effectivement, et en utilisant pratiquement tout l'arsenal de convictions et même que le droit leur offre pour, si je peux dire, réorienter les États. En particulier, Mathilde l'a très bien dit tout à l'heure, l'idée c'est de faire en sorte que les États s'engagent, et dans les stratégies associatives, il y a beaucoup ça. C'est mettre la pression pour que les États s'engagent sur des stratégies bas carbone, par exemple.
Oui,
et puis ensuite, on peut coincer l'État lorsqu'on peut vérifier ou démontrer, en tout cas, qu'il n'a pas respecté les objectifs pour lesquels il s'était engagé. Donc, moi, je vois, ces stratégies sont très intéressantes. L'État est souvent condamné pour carence, hein, pour défaut de respect de sa trajectoire bas carbone, etc. Ça renvoie à cette ambivalence dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire cette idée que l'État est celui vers lequel on se tourne pour prendre des lois, et c'est aussi celui contre lequel on agit en se tournant vers le juge, qui, je trouve là, est quand même... On évoquait le juge tout à l'heure, c'est quand même très important, parce que les juges apparaissent pas seulement comme un dernier rempart, leurs décisions sont une caisse de résonance, avec un dialogue entre les juges, c'est très intéressant.
Ils construisent un espace, c'est ça qui est intéressant.
Oui, absolument, un nouvel espace politique, d'une certaine manière.
Exactement.
Tout à fait d'accord.
Ça, je crois que c'est ça qui est très nouveau. C'est-à-dire que le juge néerlandais, la Cour de Karlsruhe, le Conseil constitutionnel, même des juridictions plus lointaines, hein, la Colombie, etc., Mathilde Autoreau-Boutonnet, ils construisent un espace. Ça, c'est quand même très, très nouveau. Un espace de discussion et, on pourrait dire même, d'intelligence collective, où on affine des arguments.
Alors, oui, je pense que ce n'est pas totalement spécifique à la matière environnementale. On pourrait aller regarder autre part pour voir la manière dont les juges dialoguent. Mais il est vrai que dans le domaine environnemental...
En droit de l'homme et en droit international, ça, c'est sûr que ça marche.
Et il est vrai que dans... Oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas uniquement les juges au niveau international. Ce dialogue, c'est chaque juge au niveau national. Et c'est ça que je trouve un peu nouveau. C'est finalement qu'un... Alors, c'est pas nécessairement le juge, hein, ça peut être les plaideurs. Le raisonnement juridique devant le juge.
C'est un droit très collaboratif.
Qu'est-ce qu'a décidé le juge néerlandais? Qu'est-ce qu'a décidé le juge allemand? Est-ce qu'on pourrait le reprendre dans notre propre raisonnement? Je pense que ça permet de penser le droit, d'autant que, très souvent, et c'est là que c'est intéressant, c'est que sur le fond, on s'aperçoit que les arguments, s'ils peuvent être communs, c'est parce que, à la base, le droit lui-même, la règle fondamentale, a quelque chose en commun.
Oui, et puis l'objet est commun, c'est notre environnement, c'est la planète.
Voilà, et ça nous permet de revenir à quelles sont substantiellement les règles que nous avons en commun depuis plusieurs siècles, comme ce qu'on appelle ce devoir de prévention, de vigilance, le duty of care, qui existe aussi en common law, et de voir comment il se dessine dans les différents États.
C'est une sorte de foire aux argumentations. C'est-à-dire une sorte de développement pour obtenir tel résultat. Voilà comment a raisonné un tribunal néerlandais. Voilà comment raisonne le tribunal allemand. Il y a cette phrase que j'ai prise dans un de vos articles. Le procès relate le poids relatif à une liberté non neutre. C'est extraordinaire comme
expression. Oui, la cour de Karlsruhe, le fameux arrêt qui, il faut juste le dire quand même aux auditeurs, couvre 129 pages dans la traduction française, et qui a été rendu par des juges, je voudrais pas faire de comparaison, mais qui sont quand même extrêmement armaturés, très denses, du point de vue du raisonnement juridique.
Ne faites aucune comparaison avec le Conseil constitutionnel.
Vous l'avez fait, à ma place, Antoine Garapon. Merci beaucoup. Mais en deux mots, c'est vrai. Et il y a notamment deux passages très intéressants de cette décision qui posent beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout, évidemment. Mais qui, je trouve, du point de vue du droit européen, c'était autour du climat, mais on voit très très bien qu'il y a une matrice qui se dessine, qui renvoie tout à fait à ce que Mathilde disait. On sent que les fondamentaux du droit sont attaqués, en tout cas, à travers cette décision-là, en tout cas, sont interrogés. Et en particulier, il y a cette idée de liberté climatiquement non neutre,
C'est l'empreinte, c'est toujours cette même idée.
Exactement, mais pour ma part, je dépasserai largement la question climatique pour parler d'une empreinte non neutre écologiquement. Et donc là, évidemment, ça nous embarque sur un terrain assez vertigineux. Ben, le climat, c'est une partie de l'empreinte écologique, l'empreinte écologique, elle est absolument globale.
Oui, et j'ajouterais, pour revenir à ces fondamentaux, il faut quand même, je vais vous donner un exemple très concret, que les auditeurs comprennent de quoi on parle. Il existe, dans le Code civil depuis 1804, notre fameux article 1382 devenu 1240, qui nous dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette faute a permis de condamner la Belgique, les Pays-Bas, en première instance, une entreprise également, Shell, aux Pays-Bas.
Pas n'importe laquelle.
Mais on a ce même raisonnement du côté également du tribunal administratif dans l'affaire du siècle. On se dit quand même, cette disposition qui a deux siècles, si on avait su qu'un jour, elle servirait à condamner ce que finalement a créé quelque part le Code civil, en limitant juste la liberté d'autrui là où elle n'a pas à causer des dommages à l'autre. C'est un retournement de situation qui est quand même assez incroyable, je trouve.
Oui, c'est un retournement de situation, c'est une extension, c'est l'imagination juridique est à l'œuvre pour relever ce défi écologique.
Ce sont les forces imaginantes, finalement,
du droit.
De Mireille Desmas-Marty, oui.
C'est ça.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit. Serveur central.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue à réfléchir sur les défis multiples, nombreux, internationaux que lance l'environnement, l'anthropocène, aux juristes en compagnie de Laurent Faubostier, qui est professeur de droit public, et de Mathilde Autereau-Boutonnet, professeur à Aix, qui a choisi de nous faire entendre Un monde nouveau par Feu Chatterton. Alors, un monde nouveau.
Un monde nouveau, et il ajoute, on en rêvait tous.
Oui.
Voilà, donc je trouve que tout est dit, mais les paroles nous montrent bien que ce n'est pas si simple.
Alors, ce n'est pas si simple, Mathilde Autereau-Boutonnet, et on aurait tendance de se laisser emporter, c'est peut-être même un défaut de travers de notre émission, à penser la nouveauté, l'espace, l'intelligence collective. Malheureusement, il ne faut pas faire de l'histoire du droit de l'environnement une histoire sainte, qui irait toujours dans le sens vers la société idéale. C'est pas comme ça.
Oui, parce que c'est un droit de réaction. Donc il arrive parfois un peu trop tard. Donc, il crée la règle une fois que le désastre est arrivé. Hein. On s'en rappellera de l'affaire de l'Erika.
Hein. Oui, l'affaire de
évidemment.
L'Erika.
Donc, ça arrive.
Mais ça fait avancer le droit, l'affaire
ça
de l'Erika.
Ça fait avancer le droit. Donc, à chaque fois, on peut se dire qu'il y a des nouvelles avancées.
Pour nos auditeurs, il faut rappeler que l'affaire Erika, elle crée une notion majeure.
Alors, c'est une marée noire importante qui va permettre au juge créateur, là, de créer ce qu'on appelle le préjudice écologique. Et c'est un concept très important, puisque là aussi, le Code civil considère que le préjudice, celui qui en est victime, ce n'est que la personne, un sujet de droit. Et cette affaire va permettre de nous dire que le préjudice, c'est aussi subi par l'environnement lui-même, qui n'est pas une personne.
Donc c'est un, mais une, qui existe comme une entité juridique créancière, en
quelque
sorte.
Qui existe comme un intérêt à protéger. C'est surtout cette idée-là, mais il est une, je dirais, une victime, mais une victime de fait, pas encore une victime de droit. Il n'a pas la personnalité juridique. L'idée, bien évidemment, est souhaitée hein, par certains juristes hein, qui plaident.
C'est un grand débat, oui, d'attribuer la personnalité
pour les droits
juridique.
De la nature et qui nous montre bien que le défi, c'est effectivement de faire appel à cette créativité. Qu'est-ce qu'on peut créer en droit comme nouveau concept pour penser autrement le droit, pour réguler, pour que le juge lui-même puisse ensuite s'en
j'ai
servir.
J'ai peut-être l'esprit mal placé, mais je pense au pacte Briand-Kellogg qui interdit la guerre. Finalement, le droit peut décider, mais Laurent Faubustier, malheureusement, les hommes sont ce qu'ils sont, l'économie est ce qu'elle est, les tensions internationales sont ce qu'elles sont. Est-ce qu'on ne serait pas dans une période de régression du droit de l'environnement aujourd'hui?
Oui, c'est la formule de Gramsci qui disait, voilà, le nouveau monde tarde à arriver et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Oui. Et on en a quelques-uns aux manettes en ce moment, si vous me permettez l'expression, vous voyez à qui je peux faire allusion.
Bien sûr.
Non, en deux mots, je crois qu'on vit un moment extraordinairement fécond, très très intéressant, mais pris en tension entre deux imaginaires dont le droit, d'une certaine manière, est porteur, en tout cas, est l'incarnation. Il y a un imaginaire qu'on peut appeler un imaginaire de la déréalisation complète, c'est-à-dire véritablement de l'échappée belle dont Musk ou Bezos sont les incarnations suprêmes, véritablement. C'est-à-dire une sorte de déterrestration complète, où il n'y a plus de limite. Et Antoine Garapon, le 8 février 1996, la déclaration du cyberespace, qui est une sorte de discours libertarien, vous impressionnerez si d'aventure vous ne l'avez pas déjà lu, parce que c'est véritablement une sorte d'anti-droit.
Oui,
c'est l'illimitisme dont parle un certain nombre d'auteurs.
Et ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont de cesse que de vouloir fuir le monde en même temps. Vous insistez là-dessus.
Absolument. C'est-à-dire que je pense, il y en a qui le fuient, d'autres qui veulent vous livrer à domicile, comme Jeff Bezos, par exemple, éventuellement sous blister, ça s'appelle bien, ou en click and collect. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en face de ça, et les forces là sont antitelluriques, mais elles sont quand même extrêmement profondes. Et en face, il y a toute une réflexion sur, on parlait d'habitabilité tout à l'heure, mais il y a un terme qu'on n'a pas beaucoup utilisé alors qu'on parle du vivant, c'est la question des interdépendances. Les catégories juridiques qui ont été mises au service de l'économie sont beaucoup des catégories fixistes, assez binaires. Ce que je veux dire, un sujet-objet. Et là, ce que le droit est invité à faire, c'est à se laisser envahir, à se laisser instituer lui-même du dehors par des interdépendances vivantes. Il n'est pas certain que le droit soit très très bien armaturé, si je peux dire, pour faire face à cela. Mais véritablement, je crois que cette tension entre imaginaires, d'un côté habiter sur la Terre, et de l'autre côté se déterrestrer travailler sur l'illimité, cette tension, elle est vraiment très très inconfortable pour le droit aujourd'hui.
Comment penser le non-binaire, pour reprendre une expression qui est très importante aujourd'hui, Mathilde Autreau-Boutonnet, le non-binaire, c'est-à-dire la transition, c'est-à-dire la tension, c'est ça
C'est compliqué parce que la tension... On la sent, on la voit de plus en plus. Regardez ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est aussi bien du côté du droit de l'Union européenne que du droit national. Tous les jours, il y a des propositions de régression à l'Assemblée nationale en ce moment. Hein, la loi sur l'industrie et la compétitivité.
Oui, puis la loi omnibus au niveau européen.
Bien sûr, la loi omnibus qui remet en cause
ce
qui était vraiment une avancée. Ce devoir de vigilance, on parlait des entreprises tout à l'heure, qui fait peser sur les entreprises multinationales une responsabilité à l'égard des atteintes à l'environnement que les filiales et sous-traitants cause à l'étranger, c'était une avancée avec tout de même beaucoup de discussions lourdes. Non, on revient, c'est suspendu. L'Europe était en pointe, ça s'arrête. Et de l'autre côté, on a ensuite des juges qui appliquent le droit. On a un exemple, il y a tout juste un mois, d'un juge qui ose appliquer le droit en retirant l'autorisation environnementale accordée à la construction de l'autoroute A69. Il faut lire et relire ce qui a été écrit par certains dans la presse. presse au sujet de ces décisions de justice, qui ne fait que appliquer le droit. Et immédiatement, les réactions de certains politiques, ça a été « modifions la loi, ce n'est pas possible, tue l'économie, on tue l'industrie ». Donc, je pense que la tension, elle va être vive quand plus le législateur va prendre peut-être des décisions de régression, plus les juges, de leur côté, vont peut-être tenter d'appliquer au mieux le droit. Et là, peut-être qu'on va taper de plus en plus sur le juge, comme on le voit aujourd'hui.
Comme on le voit aujourd'hui. Et c'est intéressant, je voudrais votre commentaire, Laurent Fombostier, c'est-à-dire, on tape sur le juge administratif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a trouvé une réaction qui est très proche de celle qu'on vit ces derniers jours à propos de la décision concernant Marine Le Pen.
Et le juge administratif, il faudrait pouvoir entrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps de faire, évidemment. Souvent, on met en évidence quelques décisions dont on se félicite, nous, environnementalistes.
Oui, c'est ça.
Mais on oublie...
D'indépendance à l'égard de l'État.
Alors, le problème, c'est que le juge administratif, vous le savez aussi bien que moi, il a deux casquettes, évidemment, et on sait très bien qu'à chaque nouvelle élection, la moitié du Conseil d'État se vide pour remplir les ministères, évidemment, les cabinets ministériels.
L'autre rentre à la maison.
C'est à peu près ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas perdre de vue, c'est pas pour être là encore pessimiste, mais à côté de toutes les quelques décisions qu'on peut évidemment donner en exemple très positif pour l'environnement, le Conseil d'État valide par ailleurs tout un tas de choses, et je suis bien certain que la décision du tribunal administratif de Toulouse dont parlait Mathilde, je suis presque certain que les 300 millions d'euros qui ont déjà été dépensés, je doute fort que le Conseil d'État, je ne voudrais pas anticiper, mais aille facilement, si je puis dire, contre l'État par rapport à ça. J'en doute fort. Regardez, tous les réacteurs nucléaires, les 58 qu'on a en France, avaient été attaqués devant le juge administratif. Et on sait bien que devant des projets régaliens, devant des projets énergétiques en particulier de grande ampleur, la possibilité pour le juge administratif de s'opposer frontalement à l'État, je ne dis pas qu'elle est inexistante, hein, mais elle est quand même, pour lui, assez compliquée, assez délicate.
Est-ce que les civilistes, finalement, le droit privé, on l'entend moins dans ces affaires-là d'environnement, Mathilde.
Alors, on l'entend quand même de plus en plus.
Mais disons que c'est pas aussi tonitruant que dans l'affaire de l'autoroute A69.
Oui, c'est vrai. Alors, on est en attente de décisions quand même très importantes. Et il faut pas oublier quand même que la Cour de cassation a créé, dès 1844, un principe qui est le cœur du droit de l'environnement, qui est la théorie du trouble anormal de voisinage.
C'est-à-dire, oui, mais on est toujours dans les relations humaines.
Voilà, on est vraiment dans du classique, dans la possibilité finalement de continuer à vivre comme on l'entend avec cette théorie du trouble anormal de voisinage. Mais tout de même, dans les contentieux climatiques, il y a beaucoup de contentieux contre les entreprises, des grandes transnationales, dont la grande transnationale énergétique française. Et c'est vrai qu'on est en attente de décisions.
C'est ça.
Juge est peut-être un peu plus long sur ce point.
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, comment dirais-je, plus que de dialogue entre les juges, j'ose pas dire de concurrence entre les juges, parce que là, on a quand même une juridiction néerlandaise qui est active, qui est très active. Alors, c'est un petit pays comparé à la France ou à l'Allemagne, très très dynamique, et qui je pense à l'affaire Urgenda, je ne sais pas comment on dit, et là l'arrêt qui vient d'être rendu sur
Shell. Oui, c'est une entreprise, c'est vraiment un juge qui a donné le ton en matière climatique, dans un premier temps en condamnant l'État pour son manque d'action dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans un second temps, en 2021, en condamnant une première fois l'entreprise Shell. Alors, il ne faut pas oublier qu'en 2024, l'entreprise Shell n'a pas finalement été reconnue civilement responsable. Mais il n'empêche que la décision est tout de même intéressante, parce que dans cette décision, le juge nous dit qu'une entreprise peut tout à fait commettre une faute en matière climatique, car il lui incombe une obligation, qui est l'obligation de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Simplement, et là on en revient au problème technique, au problème des chiffres, au problème scientifique, le juge dit j'ai pas les moyens pour de mesurer ce qui peut lui incomber. Et je dirais que ça va faire partie quand même des nouveaux défis. Le défi de la science, c'est pas C'est pas uniquement celui du législateur avec les chiffres. On peut toujours mettre des chiffres dans des règles. Mettre le 1,5 degré dans une règle, le 50%, le 30%, la neutralité carbone. Mais après, il faut pouvoir les interpréter quand on est juge. Et c'est pas si simple.
Alors, Laurent Faubustier, dans vos écrits, vous accordez une part importante à ceux qui décident pas, ceux qui sont affectés, ceux qui subissent les décisions. Et c'est bien sûr très important, c'est la vocation du droit. Mais cette proportion de gens qui subissent les décisions, qui subissent les dérèglements climatiques, qui ne sont pas ceux qui en profitent, c'est une part très importante. Mais ma question, ça serait, est-ce que aujourd'hui, ce qui a changé, le droit met du temps à inventer de nouvelles catégories, mais la croyance, l'attente, l'aspiration, elle est beaucoup plus forte qu'avant. Est-ce qu'il n'y a pas une solution du côté de la pression que les associations, que l'opinion pourraient mettre? Parce que l'opinion, elle vit ces étés brûlants, elle vit ces inondations, ces dérèglements climatiques. Est-ce que vous ne croyez pas que tôt ou tard, ça finira par se transformer dans un droit plus consistant?
Oui, je pense qu'on est dans une période charnière, c'est vrai. Mais d'un point de vue politique, ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, on observe des points de bascule, ou en tout cas, les tensions se déplacent. Je crois que les milliers d'actions en justice climatique, et puis qui commencent à porter leurs fruits sur le terrain de la biodiversité, évidemment, nous renseignent bien, me semble-t-il, sur le fait qu'il y a une méfiance vis-à-vis de l'État qui monte en puissance. Alors, elle n'a pas que des vertus, cette méfiance, évidemment. On le sait bien, elle peut avoir aussi...
Parce qu'elle reste quand même un joueur central dans le droit de l'environnement.
Absolument, il reste central, évidemment. Et le désajustement dont vous parliez très pertinemment au début de l'émission, on le retrouve ici. C'est-à-dire que je pense que l'espace national est un espace à la fois... d'une certaine manière pour les biorégionalistes, trop vaste et d'une autre manière trop étroit pour faire face à ces défis qui sont des défis, ne le perdons jamais de vue, qui nous renvoient à une continuité d'espace et de temps. La question des frontières se déplace considérablement.
Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière française.
Contrairement à ce que certains ont pu prétendre.
Bien sûr.
Mais je crois quand même, si je puis me permettre, qu'à propos des associations dont vous parlez, les tensions se déplacent aussi parce qu'il y a quand même une opinion publique internationale. On parle d'associations qui canalisent effectivement une sorte d'opinion publique relativement informe, elle lui donne du sens. Et ça, je crois que ça promet politiquement, à mon avis, des occasions de revisiter tout un tas de règles de droit, évidemment, de les bousculer peut-être. Vous parliez de créativité très, très justement, je crois, tout à l'heure, de repenser le droit assez différemment.
Alors, l'émission s'approche de son terme, on n'a pas résolu tous les problèmes du droit de l'environnement. Et je voudrais vous demander à l'un et à l'autre l'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est, pour que nos auditeurs aient une feuille de route de au moins ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut réclamer, attendre, exiger? Parce que on a l'impression que dans le droit de l'environnement, le juge, c'est vraiment le lieu de l'exigibilité des engagements pris. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Quel est pour vous, Mathilde Autereau-Boutonnet, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Honnêtement, Antoine Garapon, la question, elle est vertigineuse.
Oui, je sais bien, j'en ai bien conscience, mais pour qu'il y ait au moins un exemple, parce qu'on parle de choses qui sont vertigineuses, l'environnement lui-même est vertigineux.
Oui, c'est terrible, parce que le droit de l'environnement est, comme je vous l'ai dit, un droit de réaction, et on attend des remèdes. Je ne suis pas nécessairement certaine que le droit ici puisse être le lieu de tous les remèdes. J'ai l'impression de faire de plus en plus confiance également à l'individu qui lui-même pourrait prendre en charge une modification de son comportement. Bien sûr, le droit doit l'aider à modifier son comportement. Mais le droit, à mon avis, ne peut pas tout. En revanche, il peut proposer des nouveaux modèles, des manières de penser. Alors, vous allez me dire, c'est ce qu'on appelle aussi la transition.
On tente de modifier le modèle des personnes. J'ai un problème avec ces régulations qui passent par les acteurs et pas par les décideurs. C'est-à-dire par les hommes que nous sommes tous. Et là, on régule la télé par ceux qui regardent la télé.
Pour moi, c'est vertigineux parce que quoi qu'il en soit, on a beau se poser et se reposer la question, il s'agit malgré tout de se poser la question de savoir si oui ou non on peut atteindre encore plus nos différentes libertés individuelles, le droit de propriété, la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre.
Qui sont affectés parce que non neutres.
Qui sont affectés, certes, mais qui de toute façon seront affectés nécessairement par les conséquences climatiques et environnementales. il y a bien un moment où le droit de propriété lui-même d'une personne qui se trouve dans une zone climatique qui n'est plus supportable, bien finalement, de fait, lui-même, il perdra aussi une partie de sa propriété.
C'est ça, il y a une menace sur les libertés.
Donc l'urgence, elle est aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, cette prise de conscience que c'est maintenant, en fait.
Laurent Faubussier.
Pour moi, assez paradoxalement, il est essentiel que le droit de l'environnement ne se préoccupe pas d'environnement, mais plutôt des conditions de production du droit lui-même. Et en cela, je pense que la fabrique du droit, elle est malheureusement le reflet
du morcellement. Mais c'est le problème de la mondialisation.
Oui, du morcellement, mais pas seulement. Aussi d'une façon d'une manière de domination qu'on retrouve à la fois à l'endroit de la nature, mais aussi à l'endroit des catégories qui proposent le droit, le font et en sont destinataires.
Laurent Faubussier, est-ce que vous n'avez pas peur que le monde qui se profile, c'est-à-dire un monde d'empire ou un monde de zones d'influence, de gros empires, est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit précisément une course vers le bas? C'est-à-dire que l'écologie sera la grande oubliée, finalement, dans...
Je crois peu au droit international, qui n'est peut-être d'ailleurs plus tellement du droit aujourd'hui, je le dis avec tout le respect que j'ai pour les internationalistes.
Il y a beaucoup de choses qui sont plus du droit aujourd'hui.
On est bien d'accord. Je crois peu à l'État, et je pense en revanche que la normativité a toute sa place, quelque part entre l'éthique et le droit, mais je pense aussi à travers un retour à des pratiques, à des traditions, peut-être à un droit moins écrit, dont
mais
les peuples autochtones,
absolument,
et dont les peuples autochtones, à mon avis, à propos desquels le peuple autochtone nous donne le chemin, nous indique la route à suivre.
C'est ça. Et curieusement, ces dominés, ces affectés ont quelque chose à nous dire, nous, sur la manière d'habiter la terre.
Oui, une résilience et bien plus que ça encore.
Eh bien, merci beaucoup à Mathilde Autoreau-Boutonnet, merci Laurent Faubussier. On voit l'immensité des choses à faire. À la technique ce soir, il y avait Anthony Thomasson, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garapon.